RTL, élection.
Bonsoir. Avant de commencer ce débat, nous adressons toute notre sympathie et nos pensées à la famille et aux proches de Raymond Traube, qui nous a quittés subitement la nuit dernière. Raymond Traube, qui a participé hier soir au premier débat organisé par RTN à Fenin en vue de ces élections cantonales du 14 avril. Rien ne laissait présager un tel drame. Pour le débat de ce soir, nous recevons le conseiller d'État sortant Thierry Grosjean. Thierry Grosjean, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes actuellement chef du département de l'économie. Un autre libéral radical, Andréa Surte, bonsoir.
Bien, bonsoir.
Vous êtes bernois d'origine et vous êtes chef de région de la région neuchâteloise pour une grande banque. Nous accueillons également Patrick Herman, bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Vous êtes le représentant des Verts sur la liste de la gauche plurielle. Vous êtes directeur du lycée Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds et député au Grand Conseil depuis 2005. On termine par le vallonnier de l'étape, Jean-Nat Caracage, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Vous êtes socialiste, conseiller communal en charge de l'économie et des finances à Val-de-Travers. Alors, justement, les finances font partie des thèmes de campagne du Parti libéral radical. Thierry Grosjean, on peut lire dans votre programme que le canton de Neuchâtel vit au-dessus de ses moyens depuis trop longtemps. Alors, vous êtes au gouvernement, le canton dépense-t-il vraiment trop ?
Alors le canton de Neuchâtel, effectivement, depuis 1991 jusqu'à 2006, s'est enfoncé dans les chiffres rouges. Depuis, il convient quand même de dire que dans les derniers exercices, c'est mieux allé. Encore une fois, les budgets étaient parfois négatifs, les résultats, Dieu soit loué, étaient meilleurs. Mais il s'agit encore de continuer l'effort, car si nous voulons partir pour de grands projets, on l'a vu avec le RER Transrun, il est important d'avoir des finances saines.
Justement, beaucoup d'efforts ont déjà été faits, vous l'avez dit, dans le budget de fonctionnement de l'État, notamment. Patrick Herman, alors est-ce qu'on peut encore couper et où ?
Alors je dirais que c'est assez difficile dans la mesure où, quand on dit que le canton vit au-dessus de ses moyens, si on regarde l'état de ses infrastructures, on n'en a vraiment pas l'impression. Donc il y a des efforts à faire, il y a des efforts à faire au niveau du fonctionnement, c'est sûr. Comme c'était dit, quand même, l'essentiel du trou financier a été creusé pratiquement jusqu'en 2003. Et depuis, on est en train de rattraper le coup. On a des budgets certes déficitaires, mais ça, on en reparlera certainement tout à l'heure. Ça tient au mécanisme peut-être passéiste de la manière dont on travaille les budgets de l'État. Mais au niveau des comptes, on s'en sort vraiment bien sur ces 8 dernières années.
Jean-Nat Caracage, on s'en sort plutôt bien. Est-ce qu'on doit continuer à serrer la ceinture ou bien est-ce que ça va mieux, on peut un peu se lâcher ?
Alors une partie de l'amélioration financière, elle est effectivement le fruit d'amélioration dans le fonctionnement et l'organisation de l'État. Une autre partie, elle découle d'une politique qui est assez grave de sous-investissement chronique. Et puis le problème quand un État n'investit pas, c'est que ses infrastructures d'une part vieillissent et l'autre problème c'est que son développement se ralentit. Et c'est effectivement quand même ça la crainte qu'on a aujourd'hui par rapport à l'état de Neuchâtel, c'est un retard dans les investissements, donc il faut absolument dégager des marges de manœuvre supplémentaires au niveau du budget de fonctionnement pour pouvoir désormais investir à des niveaux acceptables, c'est-à-dire en tout cas le double de ce qu'on fait aujourd'hui.
Andréa Surte, il faut investir.
Je suis parfaitement d'accord sur ce point de vue, mais je crois il faut quand même rester assez lucide. La réalité telle qu'elle se présente, elle est mauvaise actuellement. Notre problème, c'est qu'on a un budget 2013 avec moins 13 millions. Quand on rappelle que l'exportation les 5 dernières années a vraiment boomé. Et notre grand problème pour investir dans l'avenir, c'est qu'on n'a tout simplement pas assez de muscles. Et je vous rappelle que le patrimoine, si on regarde tout le patrimoine, a besoin d'investissement environ de 300 millions pour maintenir l'État, aussi bien les routes, les hôpitaux et toutes les infrastructures. Et on a tout juste 63 millions dans le budget 2013. Je crois que le malaise, il est profond. Et le problème, il est notre endettement. On a surtout un problème de tenue des charges. Et ensuite, on peut aussi réfléchir sur les recettes.
Vous parliez de muscles. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver, ces muscles ?
Moi, je pense déjà dans une réorganisation. Je suis convaincu qu'on n'est pas optimal dans les processus. On a encore un peu des structures pléthoriques. Les départements, je ne suis pas convaincu qu'ils réfléchissent de manière transversale. On a les doublons. Si vous regardez, on a une lenteur administrative. Je vous donne un exemple précis. Et quand je discute avec le monde de l'immobilier, ils sont stupéfaits de la lenteur de l'attribution des permis de construire. Chez nous, il faut en 3 et 6 mois. Dans le Jura, ils se sont fixés l'objectif de 15 jours et dans le canton de Vaud, de 30 jours. Alors, s'il vous plaît, cherchez l'erreur.
Patrick Herman, justement, on a le problème de l'investissement, comment on peut le résoudre puisqu'on n'a pas les fonds?
Alors, bon, bien sûr qu'il faut veiller à dégager ces fonds. Alors, on a essayé différents moyens. On est en train d'améliorer la situation sur le point de la fiscalité, puisqu'on encaisse plus de la part des entreprises. Ça, c'était un bon calcul. Il faut bien sûr, comme le disait M. Joucht, renforcer la musculature. Vraisemblablement, il faut quand même faire attention de ne pas dire n'importe quoi, dans la mesure où les institutions, les fonctionnaires qui font face au public, qui rendent le service qui est attendu par la population, eux, ils commencent à être un peu justes. On a beaucoup sabré à ce niveau-là et on a beaucoup ajouté de couches au niveau du contrôle, au niveau des finances, au niveau de services soi-disant transversaux et qui ne le sont pas toujours beaucoup. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on a également une marge de manœuvre à se dégager.
Jean-Nette Carrère, comment on peut faire mieux avec moins? Vous avez des solutions?
Ouais, écoutez, oui, on peut faire mieux avec moins, il faut réorganiser, il faut retravailler les processus, les simplifier, ça c'est des choses possibles, ça dégage des petites marges de manœuvre qu'il faut s'empresser de réinvestir en faveur du développement, parce qu'une politique d'amélioration du compte de fonctionnement, elle passe autant par de nouvelles recettes que par des dépenses diminuées. Les nouvelles recettes, c'est les nouveaux habitants, c'est le dynamisme économique, c'est donc si possible des nouvelles recettes dans la population et pas des augmentations d'impôts, on est bien d'accord. J'aimerais quand même qu'on vienne sur le nœud du problème, parce que le nœud du problème financier, c'est pas un problème d'efficacité dans l'organisation de l'État ou des procédures administratives. Je pense qu'on peut gagner quelque chose sur ces points-là, mais le nœud du problème à Neuchâtel, il est dans les coûts de la politique sociale qui traduisent aussi une insuffisance de revenus pour la population. Et c'est là qu'on a un véritable problème. Il faut qu'on réussisse à faire en sorte... On est quand même un canton qui crée des richesses. C'est assez rare en Suisse, il y en a peu. Des cantons qui créent des richesses. Et nous, on les crée, mais aussitôt créées, elles s'enfuient vers les grands pôles urbains de Genève, Zurich et Bâle. Et on doit travailler maintenant sur le fait que ces richesses, elles circulent un peu plus longtemps à l'intérieur du canton, qu'on puisse en capter davantage et qu'elles profitent à un meilleur taux d'emploi dans notre population. Comme ça, on va réussir à la fois à augmenter les recettes fiscales et à la fois à diminuer les dépenses du domaine social. Et je pense que ça doit vraiment être ça la priorité de la prochaine législature au plan de la gestion financière. Il faut...
On laisse peut-être juste répondre Thierry Grosjean, qui est chef actuellement du département de l'économie. Ces richesses qui s'en vont, alors comment lutter là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Nat Caracache?
Eh bien oui, c'est important de capter ces richesses. Il est important que nous ayons de plus en plus aussi un capital de proximité. Il est important d'aider les entrepreneurs du cru à investir et à se développer. Indépendamment de ça, les grandes sociétés qui viennent d'ailleurs nous amènent beaucoup de richesses, mais ce qui est important aussi, c'est de favoriser l'implantation des cadres qui, eux, ont évidemment un pouvoir d'achat important. Et de ce côté-là, je dirais qu'un premier pas a été fait concernant la fiscalité des personnes physiques. 2013 commence à déployer ses effets. Il faut juste espérer que nous saurons mener cette démarche jusqu'au bout, que nous assumerons, parce que ça a un coût et qu'il faudra faire avec. C'est très important, c'est très important de tenir nos promesses. Je crois que nous avons beaucoup de chance d'avoir une économie qui a su se diversifier. Nous avons une économie qui vit une période assez forte, dans un moment où l'Europe ne va pas si bien. Et ça, déjà, il faut en accepter avec reconnaissance l'existence.
André, surtout vous êtes aussi pour attirer des grandes entreprises, pour faire rayonner le canton de Neuchâtel, qu'ils deviennent vraiment un pôle.
Alors encore une fois, je l'ai déjà dit souvent et j'insiste et persiste, ce que le gouvernement actuel a fait au niveau de la réforme de la fiscalité sur les personnes morales, c'est absolument stratégique et les premiers effets se sont déjà montrés. Parce que vous voyez, comme M. Caracache dit, il faut capter la valeur, la chaîne de valeur. Il a entièrement raison. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? On est une unité de production où il n'y a qu'un petit gain qui reste chez nous. Puis après, les grands bénéfices, ils sont montés chez les marques à Genève ou à Bienne. Alors, avec cette réforme, on peut avoir un espoir tout à fait serein que le jour J viendra où ils déplaceront leur holding à Neuchâtel. Et là, ça sera bingo.
Et là, vous voulez même aller plus loin, hein, aussi dans la fiscalité des personnes physiques. On n'est pas allé assez loin?
J'ai lu attentivement le rapport et je dois quand même féliciter ce qui a été fait aussi bien du côté du Grand Conseil et du Conseil d'État. Parce que c'est vrai, on a une perte à court terme au niveau des recettes pour les personnes morales. Il faut les compenser. C'est pour ça que c'était fait dilué dans le temps. Mais si vraiment on veut que Bill Gates vienne habiter à Neuchâtel, vous voyez qu'il y a un peu le wow effect, il faut absolument qu'on soit attractif pour ces personnes en baissant le taux d'imposition marginal, parce que c'est pas anti-solidaire ou anti-socialiste, parce que de toute façon ces personnes ne viendront jamais. Alors soyons un peu créatifs.
Patrick Herman, Bill Gates dans le canton de Neuchâtel, faire une fiscalité plus attrayante pour les personnes les plus riches, vous en pensez quoi?
Alors, je souhaiterais volontiers que Bill Gates vienne dans le canton de Neuchâtel sans être attiré uniquement par la fiscalité. Ça, ce serait magnifique. Ça signifierait que l'état général du monde a changé. Par ailleurs, je pense que la course au minimum d'imposition est une course dangereuse. Elle peut marcher un certain temps, mais sur la durée, elle va forcément poser des problèmes, peut-être pas tout de suite à nous, mais à d'autres, et ensuite à nous, parce que ça revient sans arrêt. Mais je crois qu'effectivement, nous avions un taux d'imposition sur les personnes physiques et sur les personnes morales trop élevé, et c'était une très bonne chose de le baisser. C'est un très bon mouvement qu'on a donné, qu'on a amorcé. Il faudrait quand même une fois, au niveau suisse, qu'on se mette d'accord pour avoir une harmonisation qui n'amène pas à cette fuite en avant au suicide collectif.
Une harmonisation de la fiscalité, Thierry Grosjean, ce serait une solution?
Alors évidemment que du point de vue de l'État, c'est un rêve, mais en réalité, il faut se rendre compte que si nous n'avions pas cette concurrence, eh bien nous paierions beaucoup plus d'impôts. C'est ce qui se passe dans d'autres cantons qui nous oblige à réagir. Et vous comparez ça, évidemment, avec les pays qui nous entourent pour constater quand même que nous avons en place maintenant une fiscalité qu'on peut nous envier et que nos cantons voisins nous envient. Et je le dis à l'aune de ce qui s'est passé ces quatre dernières années avec l'évolution de la fiscalité des personnes morales, puisque nous encaissions en 2009 à 108 millions et qu'on arrivera à un peu plus de 173 millions on est arrivé à un peu plus de 173 millions pour 2013. Donc ça montre quand même qu'il faut être créatif, et pour être créatif, il faut qu'il y ait une certaine concurrence entre les cantons. De là à ce qu'elle soit exacerbée, effectivement, ça pose quelques problèmes. J'aimerais quand même dire aussi que des cantons autres, des cantons où la vie n'est pas toujours facile, je pense à la Suisse centrale, ont, de par leur créativité, réussi à créer des conditions cadres qui ont attiré beaucoup de personnes. Alors à Neuchâtel maintenant, d'utiliser ces outils qui ont été mis en place et qui déjà démontrent leur utilité.
Créativité, on pense forcément, Jean-Nat Caracache, au Val de Travers, hein, qui a réussi à se relever. Quelles sont les solutions qui ont été trouvées au Vallon et est-ce qu'on peut les appliquer à l'État?
D'abord, permettez-moi de vous dire que ça me fait très plaisir que vous associez créativité à Val de Travers. C'est effectivement un objectif qu'on poursuit, d'être innovant et puis de tracer des chemins nouveaux. Je pense qu'une des clés du succès qui fonctionne ici jour après jour et qui produit ces derniers jours, d'ailleurs beaucoup d'effets visibles et qu'on vient de communiquer, c'est cette logique de travailler véritablement en partenariat public-privé, en réunissant un maximum les acteurs économiques et les acteurs politiques dans la construction de projets. Ça va déjà dans la définition des objectifs stratégiques, puisque au Val de Travers, c'est une spécificité qui est unique en Suisse, les objectifs de développement de la région, à 10 ans, ils ont été pensés entre les collectivités et les entreprises. C'était une démarche totalement novatrice. Donc après, évidemment, c'est beaucoup plus facile de décliner les projets et de les réaliser ensemble, si on est déjà d'accord sur l'endroit où on veut aller. C'est probablement, de mon point de vue, l'échec le plus grave de la législature qu'on vient de vivre, c'est l'absence de vision stratégique à 20 ans, 25 ans, qui fait qu'à l'heure du bilan, on est totalement incapable de savoir si on a avancé ou pas, puisqu'on ne sait pas dans quelle direction on aimerait aller.
Patrick Herman, vous êtes député au Grand Conseil, est-ce que vous voyez ce manque de vision, cette absence de vision stratégique dont parle Jean-Nat Caracache?
Alors oui, je me permets quand même de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la situation de concurrence. Ce qu'on voit quand même dans les petits cantons de Suisse centrale, c'est qu'ils tirent profit de leur proximité avec Zurich et quelque part ils vivent sur le dos de Zurich et on voit quand même une résistance s'organiser de la part de ces cantons urbains et ces petits cantons commencer à devoir assumer des charges supplémentaires qui risquent à moyen terme de mettre leur situation en danger. Par rapport à la fiscalité des entreprises aussi, là on a pu jouer une carte maîtresse magnifique parce qu'un des problèmes de notre canton, c'était quand même d'avoir exonéré une très grande partie des entreprises les plus grosses complètement d'impôts et même leur infliger un impôt relativement léger, c'était pas très grave, c'était être plus concurrentiel que les cantons voisins. Donc ça c'est des choses quand même qu'il faut savoir dans la situation de départ et qui nous donnait, je dirais un petit peu comme le Val de Travers, parce que c'est vrai que le Val de Travers partait dans une situation qui était assez à très mauvaise, si on veut bien, et créer des projets, créer une dynamique à partir de là, on ne peut aller que vers l'avant, et c'est quelque chose d'hyper positif, ça donne une dynamique. Alors ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir profiter de ce mouvement pour aller vers l'avant, pour projeter toute la population vers l'avant, et dans ce sens-là, c'est un avantage vraiment exceptionnel pour pouvoir bénéficier d'une période de prospérité, sachant quand même que dans le système concurrentiel dans lequel on vit, et qu'on ne peut pas changer, alors on est d'accord, soyons lucides, c'est un avantage.
Andreas Hjort, vous venez du monde de l'économie, cette fiscalité, vous y avez travaillé aussi à la base, hein, puisque vous avez travaillé sur le premier rapport. Est-ce que là, on a fait beaucoup de choses, on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus loin ?
On a fait le premier pas qui est le plus important, et je comprends aussi pourquoi ça a été fait. Quand on voit l'évolution démographique du canton, 2035-2040, il est où notre problème ? C'est qu'on aura beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes âgées qui seront à la retraite, mais la classe active, de 20 à 64 ans, je dirais, c'est ça qui nous fait défaut. Alors, le premier axe qui a été fait, en favorisant les familles, les enfants, c'est très bien. Maintenant, simplement, je dirais, il nous faut aussi des gens qui, à la fin de journée, ont de l'argent pour investir massivement et pour consommer dans le canton. Et vous voyez, encore une fois, si, j'ai cité le cas de Bill Gates, mais si vous avez ces personnes qui ont une situation financière, ce sont aussi souvent des gens qui ont raison. Et quand vous avez raison, on parle de vous. Et ce serait quand même bien, une fois qu'on parle positivement du canton de Neuchâtel, de dire « Waouh, il y a telle ou telle personne qui vient », parce que ce sont aussi des gens ensuite qui investissent dans le domaine culturel, qui sont prêts à faire du mécénat, ce qu'on avait dans les années 50, 60 et 70, ce qui était le cas par le passé, pourquoi ça ne peut pas devenir. On est une région tellement belle, comme disait toujours Karl Dobler, Neuchâtel, c'est au milieu entre Zurich et Genève. Du point de vue géostratégique, on n'a pas un meilleur atout.
Alors justement, Thierry Grosjean, on n'a pas un meilleur atout au niveau géostratégique. On va peut-être revenir sur les personnes qui vieillissent dans notre canton, sur les caisses de retraite, sur prévoyance.ne. Ça va être aussi un gros défi de la prochaine législature.
Alors bien entendu que c'est un sujet qui devait être pris en main. On peut regretter que ça n'a pas été fait bien avant. Si un mérite revient à cette législature, c'est entre autres d'avoir sorti l'oiseau de sa boîte, si j'ose dire. Et maintenant, il va falloir que les partis composent pour trouver rapidement des solutions qui nous évitent de devoir accepter ce que l'autorité de surveillance pourrait nous imposer. Et ensuite, nous devrons évidemment travailler à ce que les choses aillent rapidement mieux. Donc, il y a un très gros défi, effectivement.
Vous dites l'oiseau sortir de sa boîte, que vous avez commencé à travailler sur le sujet. Pas une grande réussite, il faut le dire, Jean-Nat Caracache. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça ? On a quand même été débouté par le tribunal, il va falloir revoir tout ça.
Oui, écoutez, moi je pense que ce problème, c'est un problème que à peu près tous les autres cantons, toutes les autres collectivités ont traversé. C'est lié à des défauts intrinsèques au deuxième pilier qui ont toujours été critiqués par le parti qui est le mien, donc le Parti Socialiste, qui s'est toujours opposé sur le principe à ce fonctionnement de capitalisation. Ça crée aussi des travers sur les marchés financiers, tout cela est très regrettable. Mais si on en revient sur les perspectives d'avenir d'autres cantons, je crois qu'il ne faut pas être exagérément inquiet. Toutes les grandes collectivités suisses vont traverser ou seront encore amenées à traverser des recapitalisations des caisses de pension publique, parce que pendant toute une période, eh bien, on n'a pas eu cette logique qui tendait à assurer un taux de couverture à 100% des prestations à fournir. Alors on tire souvent des parallèles avec le secteur privé, mais les règles du jeu n'étaient pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, on peut évidemment regretter cette situation, on peut surtout se réjouir, parce que c'est vrai qu'il faut aussi dire quand un bon travail est fait, du compromis qui a été trouvé pour essayer de recapitaliser cette caisse sans que ce soit une catastrophe pour notre canton, mais de manière progressive sur une longue période avec une stratégie raisonnable. Et je crois que c'est un bon compromis quand même, ou le moins mauvais possible, qui est aujourd'hui sur la table.
Patrick Herman, cette caisse unique, un bon compromis ?
Alors, on n'y est pas encore, hein, ça n'a pas été voté par le Grand Conseil. Donc, j'ai écouté avec plaisir M. Grosjean dire qu'il avait sorti le diable de sa boîte. Ceci dit, il n'a pas eu le choix, puisque les consignes viennent de Berne et qu'il fallait bien le sortir. On n'avait pas le choix, puisqu'on doit prendre une décision cette année encore. Sans ça, on n'aura pas de choix de solution, elle nous sera imposée de l'extérieur. Par ailleurs, ce qui est inquiétant, c'est que le trou de cette caisse de pension a été d'abord creusé, je dirais presque de manière systématique, jusque dans les années 2000, ça a commencé avant l'an 2000, par des éléments qui étaient connus, reconnus et qui ont été acceptés politiquement. ce qui est choquant à bien des égards. Et puis, effectivement, la fin de la chute était liée à l'évolution, puisqu'on a un cotisant qui est la bourse, si on veut bien, et que là, on a perdu massivement des capitaux, ce qui nous a mis dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on est vraiment dans une situation très, très difficile. D'après les échos que j'ai des négociations en train de se passer avant que cela arrive au Grand Conseil, j'ai des craintes parce que je ne sais pas si chacun, dans tous les partis, a compris la gravité de la situation et a compris le fait qu'on n'aurait plus le choix de trouver une réponse, elle nous serait imposée. Ou alors, comme on fait, comme l'a dit M. Caracache, on prend le compromis qui a été proposé. Si on ne prend pas ce compromis, je vois les plus grands dangers se profiler à l'horizon.
André Assiourt, votre vision sur la question?
La Caisse, normalement, quand vous pensez en Suisse, il y a moins de 5% qui encore peuvent s'offrir le luxe d'avoir une primauté de prestation. Je dirais, la logique voudrait qu'on passe tout de suite à une primauté de cotisation. Et on revient toujours à la base du problème. Il nous faudra environ entre 2 et 3 milliards pour passer d'un système à l'autre. On ne les a pas le moyen. Quelle pourrait être la solution? La solution, c'est pour le canton, pour trouver plus de muscles, pour générer des liquidités, pour ensuite investir dans des grands projets qu'on a, mobilité et hôpitaux, c'est se séparer de certains objets du parc administratif qui ne sont pas stratégiques. Et j'aimerais encore dire deux mots par rapport à la fiscalité. N'oublions pas les 11 200 travailleurs, les confédérés qui viennent tous les jours à Neuchâtel travailler et qui payent leurs impôts ailleurs. Alors on parle souvent des frontaliers, vrai, c'est un autre débat, mais occupons-nous déjà de ce qui est prêt et faisons ça intelligemment avec une gestion du territoire appropriée.
En fait, quand on vous écoute, hein, pratiquement tous, vous vous rejoignez sur un point, il faut repenser le fonctionnement de l'État. Alors, peut-être en quelques mots, quelles sont vos pistes, vos visions de l'État de demain, Patrick Herman?
Alors, je dirais qu'il y a deux aspects qui me paraissent fondamentaux. D'une part, je crois que au niveau des budgets, par exemple, on fonctionne toujours pour les institutions, c'est des autorisations de dépenser. Or, si on regarde la manière dont ça fonctionne, ces autorisations de dépenser amènent chaque institution à prévoir une manière large de fonctionner. Et si on n'y arrive pas, on est pénalisé quelque part parce que l'année d'après, on ne reçoit pas le même budget à disposition et c'est toute l'institution qui souffre. Là, je dirais qu'il faudrait oser, une fois, faire éclater cette manière de faire pour donner une souplesse et redonner à l'État la possibilité de faire confiance à ses cadres, de faire confiance à ses collaborateurs pour tirer tous ensemble à la même corde, pour créer le cas échéant des budgets offensifs où on cherche à atteindre quelque chose, mais on ne promet pas forcément qu'on l'atteindra à la fin, et le cas échéant, pouvoir combiner ça sur plusieurs années au niveau des institutions et pas seulement de l'État central, parfois un peu sourd à ce que lui disent les institutions.
André Assiourt, Neuchâtel demain.
Alors, le mot vision stratégique vient souvent. La première, c'est on veut être où dans 10, dans 20 ans? Quels sont les moyens qu'on a besoin? Et là, je reviens sur on a besoin d'investissement et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une capacité d'autofinancement. Alors, on doit se désendetter. Et je viens d'expliquer comment on le fait. La deuxième chose, c'est aussi l'organisation intérieure. Si moi, je suis élu et conseiller d'État, la première chose que je propose pendant 6 mois, il y a Hayek Engineering qui est dans les bureaux. Et ils gardent vraiment l'efficacité. Et pas d'une manière méchante, vous voyez, on ne parle pas de licenciement, c'est où est-ce qu'on peut être meilleur. Troisième chose que je fais en termes institutionnels, je remodellerai un peu les départements. Je sortirai la justice et la police
peut-être
de
on
la
va
finance.
Assez vite.
Et je sortirai et la police et la justice, et je la mettrai dans le DGT, dans le territoire, et je focaliserai vraiment que le financier, c'est le CFO qui a aussi le rôle de développer une vision stratégique et de surveiller d'une manière interdisciplinaire et transversale les autres départements. On va gagner en efficacité.
Jean-Nette Caracache, vos pistes pour le canton de Neuchâtel demain?
Je rebondis sur les propos d'André Assiourt. Donc vraiment une vision stratégique très forte autour de laquelle on peut fédérer tous les partenaires économiques, privés, institutionnels, sociaux et toutes les régions pour tirer à la même corde. Donc il faut vraiment que l'État il se mette au cœur de cette dynamique et que quelque part il réalise avec les moyens des autres, puisqu'il en a peu lui-même, qu'il réalise des projets d'avenir pour le canton en fédérant les moyens des autres acteurs.
Thierry Grosjean.
Alors, je partage tout à fait le fait de fédérer les moyens des différents acteurs. Il faut savoir aussi qu'un certain nombre d'institutions autonomisées, puisqu'il a été évoqué tout à l'heure, doivent être, bien qu'autonomisées, surveillées de près. Je pense par exemple à tout ce qui est hôpitaux. À partir du moment où on crée un conseil d'administration, aussi longtemps que les choses vont bien, on peut mettre les pieds sur le guidon. Quand les choses deviennent plus difficiles, on peut se demander dans quelle mesure le Conseil d'État ne devrait pas reprendre la présidence de certains conseils d'administration. J'aimerais dire aussi que selon les départements, et c'est en train de se mettre en place, on est en train de mettre, oui, d'essayer de tester ce système avec quelques services. La gestion par enveloppe me paraît une solution intéressante. Maintenant, c'est vrai que pour l'État, il y a des missions qui sont des missions régaliennes dans lesquelles il faut que nous agissions et que nous développions encore nos possibilités. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être laissés à l'économie libérale. Je pense en particulier tout ce qui concerne la promotion économique. Dès lors que les choses vont, on doit aider les entreprises à se développer, mais ensuite, il faut les pousser elles-mêmes à créer cette richesse. Par contre, on ne pourra pas abandonner, et c'est une illusion de penser qu'on puisse laisser ça au privé, un certain nombre de devoirs, d'organisations qui passent par le territoire, mais qui passent aussi par les possibilités d'appeler et d'attirer des entreprises d'ailleurs chez nous.
Merci Thierry Grosjean. On va faire une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes.
Élection.
Retour au centre sportif de Couvet pour la seconde partie de ce débat en vue des élections du 14 avril. On a parlé finances, on a parlé fiscalité, on va parler transport. Un autre défi que doit relever le canton de Neuchâtel, hein, c'est celui de la mobilité. On ne va pas refaire le débat du RER, mais force est de constater que la population n'a pas voulu du projet. Force est aussi de constater qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Alors, quelles sont les solutions, Patrick Herman?
Alors, c'est le pire moment pour le demander, dans la mesure où tout est en reconstruction. On doit repartir de zéro, des groupes de travail ont été relancés, et on sait qu'on a un délai qui doit être forcément très rapide, puisque des fonds de la Confédération semblent promis, on ne sait pas à quelle hauteur exactement, dans les deux prochaines années. Donc, on doit se dépêcher. Ce dont on s'est rendu compte ces derniers temps, c'est que les chiffres que les CFF avaient articulés auprès du département de la gestion du territoire concernant la prise en charge de certains coûts étaient faux, fantaisistes, changeaient toutes les semaines, les services avaient peu ou pas étudié un certain nombre de dossiers qui avaient été préélaborés, je pense au groupe Lien. Et dans ce sens-là, je dirais, actuellement, on est dans un grand brassage et il faudra voir ce qui en ressort, étant entendu que pour les raisons démocratiques, du respect du peuple, on ne peut pas reprendre effectivement le projet Transrhône tel qu'il a été présenté.
Thierry Grosjean, on est justement dans un grand brassage, hein. On l'a aussi dit, la difficulté dans le dossier, c'est que le temps presse. Alors comment mettre sur pied un projet qui tienne la route? Est-ce que il faut tout revoir, rénover la ligne actuelle, aménager les tunnels pour permettre la circulation de trains à deux étages? Vers quoi on va dans les réflexions actuelles?
Alors, ce que j'aimerais quand même dire, c'est qu'un certain nombre de travaux ont été réalisés. Dieu soit loué, ils sont conservés. Il s'agit que cette société qui s'appelait Transrhône SA devienne la société mobilité et qu'on garde, évidemment, à l'œil les différents projets. Effectivement, je pense qu'on est parti très rapidement sur ce qui était considéré comme la meilleure option. Et maintenant, nous avons deux axes importants, selon moi, mais je me réjouis d'entendre mes voisins. C'est d'abord l'axe que j'appellerais ouest, qui est une utilisation de la voie actuelle qui draine un maximum de personnes dans le canton. Et puis il y a ce lien direct que j'appellerais Transrhône souterrain, mais qui a évidemment l'avantage de relier, de permettre l'agglo, cette agglo avec trois quartiers, Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, mais qui d'un autre côté délaisse le reste du canton, qu'on doit relier avec des moyens différents et qui renchérit évidemment le coût. Nous avons au moins ces deux options. Je pense que là-dessus, il ne faudra pas faire l'économie d'un débat qui rassemble, comme ça a été le cas, et le Conseil d'État l'a voulu, dès le lendemain du 23 septembre, rassembler aussi bien des partisans du projet RER Transrhône que des opposants. J'aimerais dire qu'il y a un élément très important qui est probablement arrivé trop tard dans la campagne, c'est l'élément RER. On ne peut pas simplement penser Transrun, on doit penser rassembler les différentes régions du canton. Au-delà de ça, un élément important, évidemment, c'est de projeter le canton de Neuchâtel aussi bien sur le plateau du côté de la Suisse alémanique que du côté du bassin alémanique et du côté de la Franche-Comté. On ne peut pas simplement inventer un transport qui nous permette de nous retrouver les uns les autres et de nous déplacer à l'intérieur des frontières. Donc ça peut-être demande un travail, évidemment, de projection important, mais encore une fois, un certain nombre d'éléments existent déjà.
RER, vous dites, on est arrivé avec cette notion beaucoup trop tard dans la campagne. C'est quand même étonnant, Jean-Nat Caracage, comment vous analysez la chose? Il n'y a pas eu assez de communication avec la population?
Non, moi je pense qu'on a eu un problème, c'est que le projet, il a été construit, imaginé, pendant un certain nombre d'années, et puis ensuite il a été porté par des gens qui ne l'ont pas compris. Et ça, c'est probablement pour ça que quelque part on s'est planté, parce que quand on a vu l'État se retirer du Rhône, c'était une erreur magistrale. On a vu l'État appuyer et faire campagne sur le temps de parcours qu'on allait mettre entre la Côte aux Fées et les Brenets. Il n'y a personne qui va de la Côte aux Fées aux Brenets, et si jamais il y a une personne qui va de la Côte aux Fées aux Brenets, elle prend sa bagnole comme tout le monde. Non, ce qui est les enjeux véritables, c'est ceux que Thierry Grosjean vient de rappeler à la fin de son intervention, et c'est vraiment ça qui est au cœur. C'est comment est-ce que le canton de Neuchâtel, demain, il fait partie de la Suisse, à travers le réseau CFF, à travers les cadences qu'on aura sur la ligne du pied du Jura, respectivement, comment le canton de Neuchâtel s'intègre en Europe à travers la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Et c'est ça les vrais enjeux du réseau de mobilité du canton, c'est comment est-ce qu'on se relie au monde. C'est la même chose au niveau de la vision stratégique, on a fait preuve de beaucoup de nombrilisme. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on aimerait de plus pour nous, Neuchâtelois? Mais c'est qu'est-ce que le canton veut apporter à ce pays? Qu'est-ce qu'il veut apporter à l'Europe? C'est ça les enjeux. Et puis par rapport au transport, c'est vraiment à partir des liaisons extérieures qu'on va pouvoir construire le réseau structurant à l'intérieur. Et ensuite, il s'agit effectivement d'assurer la capillarité, de desservir bien toutes les régions. Ça, moi, je suis 100% d'accord que c'est un enjeu. Mais à travers la notion RER, j'ai un peu l'impression que effectivement, l'agglomération, moi, c'est un projet auquel je crois parfaitement, mais j'ai l'impression que on se voit vraiment comme un centre et puis qu'on réfléchit comment est-ce que les gens peuvent venir jusqu'au centre, mais pas tellement comment est-ce qu'on s'ouvre sur le monde. Et ça, ça me paraît être quelque chose qui est un petit peu regrettable dans ce débat. C'est vraiment une priorité. Si on n'a pas une solution qui est trouvée rapidement pour la ligne du pied du Jura, pour lever ce problème du goulet de Vaucellon, on entend aujourd'hui les opposants qui disent, vous voyez, c'est pas si grave, les CFF nous disent jusqu'en 2022, c'est bon, puis après, on est mort, quoi. Après, on n'existe plus sur la carte du réseau suisse, Neuchâtel est rayé de la carte. Et ça, c'est vraiment grave.
André Schurt, vous êtes aussi de cet avis, il faut vraiment regarder ces liaisons d'une manière internationale, nationale.
On le voit avec la ligne Berne-Paris, si on est déconnecté, il faut toujours savoir où est le centre névralgique. Et je partage cette appréciation qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà des frontières cantonales. C'est vrai, je dirais, un RER, un réseau va de Morteau à Saint-Imier, et puis il coordonne aussi avec le Jura bernois et avec le plateau du Jura. Ça, c'est parfaitement vrai. Mais au risque péril de passer pour Georges Marché, j'aimerais quand même insister, on veut lancer ces grands projets. Vous voyez, si on était aussi efficace comme le canton de Fribourg, avec une université trois fois plus grande que nous, et 55% de population, ils travaillent au quotidien, ils fonctionnent administrativement avec 580 millions de moins, c'est-à-dire en deux années, on aurait pu payer le Transrun. Maintenant, moi j'ai une autre sensibilité, c'est toujours lié avec la gestion du territoire, le développement du canton, du positionnement, de l'amélioration par rapport à ce classement intercantonal. Hein. Mon objectif est vraiment amener le canton de Neuchâtel au milieu du classement. Et même si c'est peut-être pas très populaire, mais je mettrai la priorité aussi sur l'ouverture vers l'Est, Bienne, Berne, Zurich. Et je regarderai une collaboration au Palais fédéral avec les cantons de Berne et Jura, parce que je crois qu'il faut qu'on ait la taille critique pour avoir aussi un impact chez Mme Leuthard.
Alors justement, la taille critique, beaucoup plus faire de travail de lobbying à Berne, peut-être avec les cantons de Berne du Jura, Patrick Herrmann, c'est une solution pour l'avenir des transports?
Bon, d'abord, j'aimerais quand même revenir sur deux, trois choses qui me gênent dans ce qui a été dit. D'abord, vous nous posez la question sur les projets. On a une commission qui vient de se mettre au travail et on nous demande de s'exprimer comme des spécialistes. On aurait déjà au fond de nous le projet qui tue, celui qui va être celui du canton. Non, il faut laisser cette commission travailler, venir avec ses propositions, les étudier et échafauder une manière de les mettre en branle. Parce que sans ça, autant dire tout de suite à la commission qu'elle ne sert à rien et puis on se relance de nouveau comme des autistes dans un projet qu'on aura confectionné tout seul. Le deuxième aspect, Oui, je suis d'accord, il faut être lié à Bienne, il faut être lié à Zurich, il faut être lié à Genève, il faut être lié à Paris, à Berne. Tout ça, c'est fondamental. Mais tout ça, c'est faire fi des milliers de personnes qui prennent le train le matin dans le haut du canton, par exemple, et qui doivent, en catastrophe, appeler une voiture parce que le train ne part pas, qui ne peuvent à moitié pas rentrer dans ce même train. Et ça, ça se répète jour après jour, semaine après semaine. Et ça, je dirais que c'est des soucis des citoyens neuchâtelois qui méritent d'être entendu. Et puis, il faut reconnaître aussi que quand vous êtes cadre, quand vous êtes responsable, quand vous êtes politique, par rapport à une agglomération, à un quartier d'une agglomération, prenons la Chaux-de-Fonds-le-Loc comme quartier de l'agglomération, c'est quand même incroyable que dans ce quartier-là, vous n'ayez pas un transport public fiable et que vous soyez obligé de prendre votre voiture pour aller parquer à Neuchâtel si vous voulez être lié au reste de la Suisse et du monde.
Jean-Nate Caracas, vous vouliez réagir.
Oui, j'aimerais bien réagir parce que je pense que cette préoccupation, elle est tout à fait légitime, mais je pense aussi que si on veut convaincre les 175 000 Neuchâtelois d'adhérer à un projet de liaison rapide entre le littoral et les montagnes, il faut le projeter dans une perspective extérieure. Expliquer pourquoi c'est indispensable pour connecter ce canton au reste du monde de réaliser cette amélioration de la voie. Parce que sinon, on va revenir à des solutions branlantes comme supprimer le rebroussement de Chambrelien et puis des mesurettes comme ça. On va repartir dans la rénovation de la ligne actuelle et c'est catastrophique parce qu'on va se taper pendant encore 50 ou 100 ans une ligne qui n'a plus rien à voir avec le 21e siècle.
Mais c'est rassure, vous acquiescez aux propos de Jean-Nat Caracas.
C'est pas parce qu'il a fait un excellent travail dans Val de Traverton, je tiens aussi à le remercier et féliciter. Il a fait ça avec une majorité PLR, mais excellent travail. Alors par rapport à sa réflexion, vous savez, je prends quand même de temps en temps le train, je ne suis pas un homme forcément de bagnole. Il est vrai le matin que les étudiants qui descendent à Neuchâtel, il est vrai on peut avoir la peine de trouver une place. Mais je peux vous dire, quand vous le prenez durant la journée, je ne vois pas forcément comment du jour au lendemain on veut augmenter de 400% les passagers, comme ça a été promis dans le projet Transrun. Alors moi je suis aussi plutôt pour une réflexion. Maintenant, on recommence malheureusement à zéro, réfléchissons global et jetonnez, on ne ment pas le bébé avec l'eau du bain.
Alors là aussi, Patrick Herman, vous vouliez réagir tout à l'heure. Ça...
Oui, donc je dirais que j'entends bien les remarques de Jean-Nat Caracas, et puis c'est important d'avoir cette vision globale, et c'est vrai que dans l'état actuel du canton, où personne ne fait confiance à personne, on ne peut pas morceler un projet, parce qu'un projet qui est pour 10 000 habitants, les 160 ou 170 000 autres ne le veulent pas, parce qu'ils ne les concernent pas. Et ça, on n'arrive pas à faire comprendre aux gens qu'on va s'occuper d'eux après, parce qu'effectivement, avec le climat de catastrophisme qui règne, ce n'est pas crédible. Donc ça, c'est quelque chose de sûr. Rien n'empêche de penser qu'on va avoir des gens qui vont réfléchir un petit peu et qui vont trouver une solution intelligente, c'est ce qu'on attend d'eux, c'est ce qu'on attend de nous tous, et qui permettent de résoudre les deux problèmes, c'est-à-dire la sortie vers l'extérieur et puis un fonctionnement à l'interne qui soit efficace. Mais alors, je répète, pour ça, ça signifie qu'on s'écoute, on se parle, on communique, on a des groupes de travail qui servent à quelque chose, et puis on n'a pas trois personnes qui décident tout d'un coup de se lancer dans un truc, et puis qui annoncent en même temps qu'elles veulent faire la chose, qu'il leur manque 2 milliards pour la faire.
Thierry Grosjean, beaucoup de critiques par rapport au manque de communication sur ce RER. Bon, vous êtes arrivé en cours de législature, donc vous êtes peut-être plus à l'aise pour en parler, mais comment vous avez vécu ça au sein du gouvernement ?
Alors d'abord, je suis effectivement arrivé dans un gouvernement qui savait exactement ce qu'il voulait. J'ai essayé d'apporter la dimension RER, je le dis, parce que c'est probablement d'ailleurs une des failles du système, c'est qu'il faut, on doit arriver à intéresser l'ensemble du canton. Alors on ne pourra pas intéresser le bout de la vallée, mais vous ne pouvez pas simplement relier deux points, faire une agglomération et oublier de vous projeter sur le reste de la Suisse ou sur la Franche-Comté en oubliant les autres parties. Pourquoi ? Parce que la réalité est telle que le citoyen qui vote, il habite dans tout notre canton. Et si on n'a pas un concept de transport qui fait qu'on peut oublier la voiture dans beaucoup de cas, eh bien nous allons à l'échec. C'est pour ça que j'attends moi énormément, encore une fois, de ce qui a été fait. Il faut simplement sortir des cartons un certain nombre d'hypothèses, il faut les retravailler, on sait exactement où on va, on sait qu'on doit se raccorder au réseau national. C'est juste obligatoire. Partant de là, on s'organise à l'interne, et puis on doit le faire de telle manière que nous puissions développer les ramifications ultérieurement, ça doit être planifié, il faut que la population, lorsqu'elle devra se prononcer, ait une vision claire de ce projet. Il y a une chose, à mon avis, qui pourrait nous opposer, je dis ça pour lancer un peu le débat, c'est le problème du park and ride. On a obéré dans le projet très souvent les possibilités de se parquer. Oui, certes, à Cernier, il y en avait, mais Neuchâtel n'est pas réglé. Et là, on doit trouver des possibilités qui permettent de rallier les gens au transport en public. Pas simplement transport en public uniquement, mais comme ça a été dit tout à l'heure, certains vont prendre la voiture pour se rendre à la gare, et en particulier dans les vallées. Et là, il faut créer des possibilités. Donc c'est un tout. C'est un tout qui doit être repris. Mais j'aimerais quand même dire, parce qu'on parle souvent de catastrophe, j'aimerais quand même dire que, personnellement, si j'étais très déçu, et j'utilise l'image du fait que j'ai porté la cravate noire pendant une semaine, donc le deuil d'un projet auquel j'avais dû adhérer, j'aime quand même rappeler que le résultat, à 418 voix, est, si j'ose dire, parce qu'on gagne ou on perd, mais nettement plus favorable que ce que je prédisais et que ce que prédisaient beaucoup de personnes. Donc on se rend compte quand même qu'un prochain projet a des chances, s'il est bien organisé, si on sait où on va, il a des chances de passer. J'aime quand même rappeler que les grands projets de société de notre pays n'ont que très rarement passé du premier coup. Donc il faut que les gens soient interpellés. J'ai entendu des opposants se questionner sur leur votation négative, enfin comprendre qu'ils avaient eu tort, mais le peuple ayant raison, il faut faire avec, et je rappelle qu'on ne pourra pas faire autrement qu'étudier les deux variantes. Pour moi, globalement, c'est ou très rapidement sur le plateau et on relie l'agglomération, ou alors on doit réfléchir en utilisant les voies que nous avons maintenant. J'aimerais quand même
juste... Si on va très vite, dans le fond, le refus du RER, quelque part, ça va permettre de vraiment réfléchir.
Alors, Dieu soit loué, il a déjà été réfléchi, mais je crois que ça va faire réfléchir un certain nombre de personnes qui ont simplement dit non aux conséquences de ce nom, et ça devrait nous permettre de rebondir dans des conditions intéressantes.
Jean-Luc Carregage.
Oui, moi j'espère que ce refus, effectivement, de toute façon, il est là, il faut faire avec, il faut maintenant en tirer le meilleur profit possible. Hein. Dans chaque difficulté, il faut voir une opportunité, c'est Churchill qui le disait. L'opportunité, c'est celle d'améliorer le projet. Il peut être amélioré selon deux axes. D'abord, un réseau de transport, c'est un outil au service d'un projet de développement. Si on arrive à exprimer le projet de développement, il est certain que le réseau de transport deviendra plus facilement compréhensible. C'est un premier point. Et le deuxième point sur lequel j'espère qu'on parviendra à développer le projet, c'est surtout l'aspect transfrontalier et liaison au nord vers la ligne grande vitesse Rhin-Rhône. Le projet, il n'était pas terminé de ce point de vue-là. Hein. Qu'on pense à la région frontalière Pontarlier, le Val de Travers par ici, mais surtout Morteau-le-Locle et jusqu'à Besançon. Là, on avait des points d'amélioration importants encore du projet et qui résolvent des problèmes qui effectivement, dont la population ici commence de plus en plus à souffrir, dont elle souffre déjà de manière très forte au Locle.
Alors justement, on parle au bas, on parle transport. Là, au milieu, on peut aussi parler de la cohésion cantonale. On entend toujours parler du haut, du bas. André Assurte, vous venez d'un autre canton. Quel regard vous portez justement sur ces sensibilités régionales?
Churchill disait aussi, pour répondre à M. Carregage, hein. Le rôle du politique, c'est pas d'entretenir des faux espoirs au risque et péril d'être balayé par les événements. Alors, Churchill, c'est un bon type.
Pour la cohésion.
Il sert les deux causes.
La cohésion.
J'espère ne pas être balayé demain par les événements.
Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, Churchill, de la cohésion cantonale?
Ah, lui, c'était un fédérateur. Je dirais, vous voyez, quand vous avez le dos au mur, surtout à la période où Churchill était actif, et... Là, je prends la balle au bon, parce que le canton de Neuchâtel, dans les années 80, qui avait le dos au mur, qui avait un gouvernement on peut qualifier de fort, qui a poussé des réformes, je dirais, il n'y avait pas tellement de dissensions entre le haut et le bas. Et pour moi, en tant que Bernois, il y a aussi des dissensions entre Langnau et Berne. Mais je trouve qu'il est exagéré et je trouve c'est un peu gonflé. Hein. On stigmatise le haut et le bas, mais on oublie le Val de Travers et on oublie aussi le Val de Rue. Une belle maison, si elle est vraiment solide, elle va résister aux tempêtes, elle repose sur quatre piliers. Alors je pense qu'il faut déjà apprendre à mieux se connaître, à se comprendre et être à l'écoute. Ça, c'est le premier pas par rapport à...
Patrick Herman, cette cohésion cantonale, quand on en a discuté en antenne, vous m'avez dit que ce n'est peut-être pas un très bon sujet. Pourquoi?
Alors... Je dirais que c'est toujours délicat de parler d'un sujet au risque de réveiller des vieux démons. C'est intéressant cette discussion que nous avons ce soir, parce qu'on se rend compte qu'on est relativement proche sur les grandes options stratégiques. Mmh. Après, le diable se niche dans les détails, hein, c'est chaque fois la manière d'y arriver qui peut jouer toute la différence. Alors, c'est clair que, pour revenir à la question que vous avez posée, on a vécu dans ce canton une certaine forme de rationalisation des tâches qui a amené à créer des centralisations ou décentralisations de différentes choses. Et puis, manifestement, des gens se sont sentis délaissés ou moins bien traités que d'autres. Et ça, c'est plutôt le haut du canton qui attend de voir ce qui pourrait lui échoir. Et je pense qu'on peut, avec un gouvernement qui parle d'une voix, avec un gouvernement qui rassemble plutôt que de diviser, qui joue les gens comme un groupe qui travaille avec lui et vers des projets, je pense qu'on peut tout à fait arriver à résoudre la question de manière satisfaisante. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que le problème des transports est résolu à satisfaction pour ceux qui sont délaissés. Ça signifie que le problème de l'hôpital est résolu à satisfaction pour les régions qui sont délaissées. Ça signifie que un tribunal promis dans le haut peut...
Une meilleure répartition cantonale.
Une répartition avec une antenne du CNIP ou je ne sais quoi. Et puis, à partir de là, je pense que les choses se résorberont, parce qu'à partir du moment où on a l'impression qu'il y a une vraie répartition sur les différents quartiers de l'agglomération, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison. Alors encore une fois, sans amener des coûts supplémentaires, je parle là d'éléments qui ont été analysés financièrement et qui ne coûtent pas plus cher.
Jean-Nat Caracache, la cohésion cantonale, en quelques mots, elle passe par quoi ?
Alors, bon, moi je pense que si on veut créer une forte cohésion dans ce canton, il faut un projet autour duquel on fédère les forces. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça en tout cas que ça a fonctionné ici au Val de Travers quand il s'agit de mettre ensemble les communes. Et les communes, c'est pas seulement les autorités, c'est pas seulement les institutions publiques, c'est aussi toute la société civile. On y revient encore une fois, entreprises, institutions sociales, associations, tout ce qui fait finalement la région. Et c'est, je pense, à travers un projet fédérateur, une vision d'avenir commune, une envie de faire de Neuchâtel quelque chose, qu'on va réussir à réunir toutes les forces du canton. J'aimerais, pour conclure, paraphraser des références wallonnières qui me sont chères, en disant que la question n'est pas tant ce que l'État peut apporter aux différentes régions, mais pour chaque région, de savoir ce qu'elle peut elle-même apporter au canton.
Alors, peut-être rapidement, Thierry Grosjean, est-ce que la cohésion cantonale, elle passe par des choix politiques, des changements de mentalité ou par le dialogue ?
Alors d'abord par le dialogue, ensuite par une vision effectivement de ce qu'on veut faire. Chaque fois qu'on implante quelque chose, qu'on organise, on doit quand même se poser la question de l'équilibre, de savoir est-ce que c'est juste de le poser sur le littoral ? Est-ce qu'on n'aurait pas une solution qui nous permette de le mettre dans les vallées ou dans les montagnes ? Ça, je crois que c'est important. J'aimerais donner l'exemple des pôles de développement. Pôles de développement qui font qu'on collabore avec les régions, on collabore avec les différentes parties du canton, et de cette manière-là, nous arriverons à rééquilibrer. Mais c'est très important. Je crois qu'on n'a pas le droit de minimiser cette problématique, quand bien même, ça a été dit, il n'y a pas seulement le canton de Berne qui a des problèmes, mais le canton de Soleure le vit aussi avec différentes régions. J'aimerais rappeler aussi que le canton de Vaud connaît ses problèmes entre le Chablais et le Nord-Vaudois avec la région lausannoise. On vit aussi ces différences-là. Simplement, il faut avoir un peu de compréhension et simplement pas se dire que c'est complètement égal, mais de toute façon, on le fait dans une région qui s'appelle le Bas. Non.
Merci.
On doit réfléchir en termes d'équilibre, et je pense que, par exemple, le nouvel hôtel judiciaire est un bel exemple de ce qu'on peut effectivement amener dans les montagnes.
Nous arrivons au terme de ce débat. Thierry Grosjean, Andréa Siourt, Patrick Herman, Jean-Nat Caracache, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Walter Zapata à la technique. Merci encore au Centre sportif de Couvet qui nous a accueillis dans ses locaux. Prochain débat en public en vue de ces élections cantonales au Conseil d'État du 14 avril, c'est demain à 19h au restaurant de la Gargotte à La Chaux-de-Fonds avec Marianne Hebel, la candidate de Solidarité, le socialiste Laurent Courte, le libéral radical Christian Blandeny et le PDC Marc Eichenberger. Élections.